Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre revue de 7 jours d'événements sur la planète avec bien sûr la rédaction. Après nos 2 semaines consacrées à l'actualité de l'année 2011, bonne année, tous mes voeux. Nous allons parler de la Syrie, nous irons aussi au Nigeria, au Cameroun et au Sénégal. D'ailleurs, à propos du Sénégal, écoutez Youssou N'Dour, le célèbre chanteur et homme d'affaires aussi, annoncer sa candidature à l'élection présidentielle sur sa chaîne de télévision, c'était lundi.
Je suis candidat. Je n'ai pas fait d'études supérieures, mais la présidence est une fonction et non un métier. À l'école du monde, j'ai appris, j'ai beaucoup appris. Le voyage instruit autant que les livres. Je voudrais faire du Sénégal un pays qui se fait tout seul par la main et la force de ses enfants. Je suis l'alternative à l'alternance. Si vous m'élisez en février, le premier acte que je poserai sera la réduction du train de vie de l'État. Avant la fin de mon mandat, l'autosuffisance alimentaire sera une réalité, la nourriture pour tous est mon combat. Je travaillerai avec les meilleures compétences sénégalaises, quel que soit le pays où ils sont. Ici ou à l'étranger, je mettrai à la disposition de mon pays mon portefeuille relationnel avec vous pour gagner dès le premier tour.
Rendez-vous avec l'actualité africaine dans la seconde partie de l'émission. Après le flash, rendez-vous aussi bien sûr avec vos messages. Merci de votre fidélité. Aujourd'hui, nous allons parler des pays du Golfe, du Qatar notamment, de plus en plus présents dans l'économie française, notamment nos invités Brigitte Dumortier et Philippe Caden, qui ont conçu un très bel atlas des pays du Golfe, coédité par les presses universitaires de la Sorbonne et RFI.
Semaine d'actualité.
D'abord, partons aux États-Unis où le marathon des primaires a commencé côté républicain mardi à Des Moines, dans l'Iowa, avec une courte, très courte victoire de Mitt Romney. Reportage de notre correspondant Raphaël Rennes.
Les résultats tardent à tomber ce mardi soir. La bataille est serrée entre Mitt Romney et Rick Santorum. Chacun des deux hommes attend que l'autre l'appelle et reconnaisse sa défaite, raconte l'animateur, chargé de faire patienter la foule des partisans et des journalistes. Dans la salle, Tania attend son candidat, celui qu'elle aime pour ses valeurs familiales et sa bonne éducation. Il est déjà 23 heures passées lorsque Rick Santorum arrive enfin, effectivement en famille.
I want to introduce Karen, the kids, and Rick Santorum. Come on in, everybody.
20 minutes de discours, le candidat remercie sa famille, ses partisans et Dieu.
Dieu nous a donné ce beau pays pour permettre à son peuple d'être libre. Il nous a donné cette dignité parce que nous sommes sa création. Et que vous défendiez la sacralité de la vie dès la conception ou le droit de tous les travailleurs américains à exploiter leurs capacités, vous trouverez en Rick Santorum un ami. Que Dieu vous bénisse.
Battu par Mitt Romney de 8 voix sur plus de 122 000, Rick Santorum donne rendez-vous à ses partisans la semaine prochaine dans le New Hampshire. La bataille ne fait que commencer.
Une semaine d'actualité. L'actualité internationale, c'est aussi l'annonce par Téhéran ces derniers jours du lancement de 2 missiles de longue portée lors du 10e et dernier jour de manœuvre navale iranienne dans le Golfe, après avoir testé un missile solaire de moyenne portée dans le détroit d'Ormuz. Cela nous conduit directement dans le Golfe. Bonjour Philippe Caden.
Bonjour.
Vous êtes professeur de géographie et du développement à l'université Paris Diderot.
Oui. Hein,
et bonjour Brigitte Dumortier.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence en géographie humaine et vous dirigez le département de géographie et aménagement de l'université Paris-Sorbonne Abu Dhabi. tous les deux, vous vivez dans les pays du Golfe, donc. Est-ce que ces manœuvres de Téhéran, puisque c'est dans l'actualité de ces derniers jours, les manœuvres de l'Iran vous inquiètent ? Téhéran qui a annoncé hier, vendredi, de prochaines nouvelles manœuvres.
Alors, inquiéter, je ne sais pas, mais en tout cas, je crois que ce qu'on doit dire, c'est que les relations entre les deux rives du Golfe sont extrêmement complexes. D'une part, parce qu'il y a une opposition politique, des escalades verbales assez rémanentes. En même temps, il y a quand même aussi beaucoup de liaisons de proximité, d'intérêts d'affaires. On sait bien, par exemple, l'importance de l'Iran dans l'économie de Dubaï. Et donc, c'est pas la première fois qu'il y a des... On a l'impression, effectivement, qu'en ce moment, on est dans une période où la tension monte.
Dans une région extrêmement importante, sensible, Philippe Cadenne.
Oui, bien sûr. Alors, effectivement, c'est sensible parce que les tensions sont multiples. Les enjeux aussi sont importants puisque c'est quand même le lieu d'où vient une très large part des hydrocarbures qui sont consommés dans le monde. Mais ce qu'il faut dire aussi, si on parle de tensions et des effets de ces tensions sur les sociétés du Golfe, c'est que ces sociétés sont des sociétés largement peuplées d'étrangers, hein, puisque dans ces villes, il y a parfois jusqu'à 80% de gens qui sont résidents, qui travaillent là, mais qui n'ont pas la nationalité et qui n'ont pas forcément vocation à y rester. Donc, de fait, cela crée une situation particulière où beaucoup de gens, effectivement, ne se sentent pas totalement impliqués dans les tensions locales. Ce qui fait qu'il y a parfois une certaine insouciance, tout en donnant quand même à la vie là-bas une certaine gravité.
Brigitte Dumortier, Philippe Cadenne, d'abord félicitations parce que votre atlas est un très bel outil, très belle carte, ce qui est important pour un atlas, un texte qui est à la hauteur. Alors d'abord une définition, Brigitte Dumortier, qu'appelle-t-on exactement pays du Golfe ?
Alors, c'est une dénomination qui n'était pas habituelle jusqu'à une époque récente, notamment dans la géographie française, où on avait toujours une lecture très dichotomique, d'un côté les Arabes, de l'autre les Persans, appartenant à deux aires culturelles différentes, etc. Alors, il nous a paru, nous, au contraire, que le Golfe était quelque part une sorte de Méditerranée. Et donc, pour nous, les pays du Golfe, c'est une unité, mais c'est peut-être une conception plus anglo-saxonne que continentale de la géopolitique, était un espace qui existait centré autour de cette mer semi-fermée. Donc, ça recouvre tous les petits États qui jalonnent la rive arabe.
La première carte que l'on voit dans ce beau livre, donc, on voit que l'Iran, une partie de l'Iran, l'Irak, le Koweït, le Bahreïn, Qatar, etc.
Oui, alors certains pays sont exclusivement des pays du Golfe, le Koweït par exemple, ou le Qatar. D'autres n'ont qu'une partie. Mais il me semble que, par exemple, l'Irak, vu l'importance de la basse Mésopotamie aujourd'hui dans la production pétrolière est au moins autant un pays du Golfe qu'un pays qu'on aurait appelé autrefois du croissant fertile, par exemple. De la même façon, l'Iran, même si le centre de gravité de l'Iran est plutôt du côté de Téhéran, a tout de même une très très longue façade maritime sur le Golfe, et c'est au nord du Golfe que se trouve le pétrole iranien, dans la région d'Abadan, Ramchar...
Oui, c'est ce qui est frappant, c'est-à-dire que lorsqu'on parle des hydrocarbures, généralement, les hydrocarbures sont associés au Golfe, et de fait, on voit que pour tous les pays riverains, donc de l'Iran à l'Irak, au Koweït, Arabie Saoudite, Qatar, Bahreïn, Émirats Arabes Unis et Oman, tous ces pays-là, en fait, ont leur pétrole sur les rives du Golfe. Donc l'enjeu est important et ça peut donner aussi une autre vision de ces grands pays que sont par exemple l'Irak, l'Iran, qui sont très importants pour l'actualité. Mais c'est une vision importante de voir qu'en fait ce ne sont pas des pays unifiés au niveau économique. Et il y a des différences fortes et le pétrole se trouve, comme il se trouve aux Émirats, comme il se trouve à Qatar, qui sont des petits pays, sur les rives ou très proches des rives.
Oui, il est sur les rives, j'allais dire, et j'allais même ajouter, toute une partie étant offshore, il est carrément dans le Golfe.
Et les champs étant partagés, parfois, par les pays des deux côtés, c'est-à-dire le Qatar et l'Iran exploitent des champs d'hydrocarbures communs.
D'où source de conflits éventuels.
Absolument.
7 jours dans le monde.
Et Brigitte Dumortier, Philippe Cadenne, nous allons nous rendre en Syrie où la répression continue malgré la présence d'observateurs de la Ligue arabe. Une mission d'ailleurs fort critiquée, Véronique Guémard, mercredi.
La mission des observateurs de la Ligue arabe est un échec. C'est le constat que font les combattants de l'armée syrienne libre par la voix de leur commandant, le colonel Riyad al-Assad, réfugié dans le sud de la Turquie et qui revendique une force insurgée de 10 000 hommes. En un mois, la centaine d'observateurs de la Ligue arabe déployés dans le pays doit vérifier si le régime syrien applique bien le plan de sortie de crise et notamment l'arrêt des violences. Et c'est loin d'être le cas. Pendant la mission des observateurs, l'armée syrienne libre avait suspendu ses opérations contre les forces syriennes de sécurité pour bien montrer que, je cite, « c'est le régime qui est criminel ». Dans un entretien téléphonique à l'agence Reuters ce mardi, le colonel Riyad al-Assad menace de, je cite, « déclencher une vaste escalade de nos opérations dans les prochains jours si les observateurs ne sont toujours pas sérieux dans leur mission ». La Ligue arabe doit se réunir ce dimanche au Caire pour analyser les premiers éléments du rapport des observateurs sur le respect du plan de sortie de crise. Paris et Washington, de leur côté, ont déclaré qu'il était temps que le Conseil de sécurité de l'ONU accroisse sa pression sur Damas.
À noter aussi en Irak une vague d'attentats visant des chiites jeudi à Bagdad. Ils ont fait au moins 73 victimes. Suite d'une semaine d'actualité en Israël, où l'armée est intervenue contre des colons radicaux, correspondant jeudi de Nicolas Falaise.
Les ordres d'éloignement ont été remis la nuit dernière par l'armée israélienne à des individus installés dans des avant-postes illégaux, c'est-à-dire des colonies sauvages bâties sans l'accord des autorités de l'État hébreu. 12 colons radicaux sont concernés. Ils sont interdits de séjour en Cisjordanie pour des périodes allant de 3 à 9 mois selon les cas. Tous sont soupçonnés d'avoir participé à des actions de price tag, en français prix à payer. C'est le terme employé pour décrire des violences perpétrées par des éléments de la frange la plus radicale des colons lorsqu'ils s'estiment maltraités par les autorités de leur propre pays et notamment quand l'armée démantèle des installations bâties illégalement dans les colonies. Ces derniers mois, des mosquées ont ainsi été incendiées en Cisjordanie, mais aussi en Israël, et cette semaine encore, des véhicules ont été brûlés dans un quartier arabe de Jérusalem-Est. Ces colons extrémistes n'hésitent plus à s'en prendre à l'armée israélienne. En décembre, une cinquantaine de jeunes avaient pénétré dans une base militaire de Cisjordanie pour y commettre des actes de vandalisme. Un officier israélien avait été caillassé. L'affaire avait fait grand bruit. Les autorités israéliennes avaient promis de réprimer avec sévérité les fauteurs de troubles.
Notez que pour la première fois depuis plus d'un an, des négociateurs israéliens et palestiniens se sont rencontrés mardi sans que cela débouche sur un quelconque résultat, si ce n'est la promesse de se revoir lundi à Amman. À noter aussi dans l'actualité internationale, des manifestations en Hongrie contre une nouvelle loi constitutionnelle qui est une menace pour la démocratie selon ses opposants et la reprise du procès d'Hosni Moubarak au Caire. L'ancien président égyptien est accusé de la mort de manifestants et d'abus de pouvoir et ceci près d'un an après le déclenchement de la révolution. La peine de mort a été requise contre lui. Suite d'une semaine d'actualité, nous parlons des pays du Golfe et on a une pensée pour notre confrère Olivier Dallage que vous connaissez, Brigitte Dumortier, un spécialiste de l'Arabie Saoudite. Il est venu d'ailleurs nous parler du Golfe il y a quelques mois à ce micro.
Oui, il avait fait un excellent livre qui s'appelait « Le jeu des sept familles » qui montrait les relations complexes entre les différentes familles régnantes qui sont à la fois très solidaires mais également qui ont des intérêts parfois divergents.
Alors cet atlas, c'est un atlas géopolitique, mais c'est aussi un atlas historique. Et vous avez un chapitre qui s'intitule « Des États singuliers ». J'aimerais qu'on s'y arrête un instant, car parler des pays du Golfe est très général. Il faut préciser, même si on n'a pas le temps de passer tous les pays en revue, que chaque pays du Golfe a sa particularité. Brigitte Dumortier.
Oui, alors d'une part, évidemment, il y a une différence majeure entre l'histoire de l'Iran...
Oui,
et l'histoire de la rive arabe, sachant néanmoins que sur la façade iranienne sur le Golfe est tout de même peuplée en partie de populations sunnites et arabophones, et puis vers le sud de populations baloutches également sunnites. Donc on est dans des périphéries avec tout de même, un petit peu comme les Azéris au nord de l'Iran, des ethnies différentes, des différences culturelles assez fortes. Alors par ailleurs, en ce qui concerne la rive arabe, il y a d'abord une singularité qui est celle du Qatar, qui est que le Qatar n'est pas un gros producteur de pétrole, mais un très gros producteur et très gros détenteur de réserves de gaz naturel, dont on dit toujours que c'est l'énergie, une des énergies du futur.
Et on va reparler du Qatar d'ailleurs dans la deuxième partie de l'émission. Philippe Cadenne.
Oui, donc en fait, nous avons eu toute une série de villes, parce que ce sont des pays, mais ce sont aussi des villes, puisqu'on est...
C'est comme société urbaine, en
c'est
fait.
C'est ça, on est confronté directement au désert dès que l'on quitte la ville. Hein, ça, c'est une dimension très importante et très différente des pays qui sont les nôtres, bien sûr. Et donc, ces villes, qui sont des villes sur la côte, pour l'essentiel, il y a aussi quelques oasis qui peuvent parfois, comme Al-Asa, en Arabie Saoudite, réunir 1 million d'habitants, hein, c'est très important. Al Ain, plus de 500 000 habitants aux Émirats Arabes Unis. Donc, si vous voulez, ces villes très différentes sont quand même des villes toujours influencées par l'activité pétrolière, les hydrocarbures, et qui toujours ont des migrants qui travaillent. Donc, on a à la fois une très grosse différence en fait entre les pays, mais aussi des similitudes économiques qui fait que ces pays sont à la fois en compétition, mais aussi ont des intérêts communs, et il y a aussi une volonté de se mettre ensemble, et c'est le cas de c'est le Conseil de coopération du Golfe
créé en 1980.
C'est ça justement, ouais. C'est développé de manière à créer une synergie, et donc on voit aujourd'hui la mise en place de réseaux, par exemple l'électricité, etc., qui permet à ces pays de se maintenir dans cette sorte de compétition de fait, hein, mais aussi d'être plus fort au niveau international. Et ça, c'est quand même très, très important.
Roger Dumortier.
Oui, moi, je voulais ajouter aussi qu'en fait, ce qui est très étonnant, c'est qu'on est dans un monde qui est en commun au-delà de petites différences religieuses, puisque, par exemple, le Qatar est wahhabite, on a de fortes communautés chiites à Bahreïn, on en a entendu parler l'an dernier, au moment du printemps arabe. Au-delà de ça, on a quand même une communauté de langue, puisque les dialectes du Golfe, le Raliji, hein, le dialecte arabe du Golfe, est quand même très... très différent des autres dialectes arabes, et comporte notamment parfois pas mal de mots persans dans certaines régions. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on voit finalement apparaître des formes de nationalisme dans une société qui était tribale. Depuis les indépendances, les Qataris sont très fiers d'être Qataris, les Koweïtiens sont très fiers d'être Koweïtiens. Alors, je dirais que
un sentiment national.
Un sentiment national qu'on voit pas seulement au moment, et qui est entretenu, enfin, qui passe aussi par l'allégeance aux différentes dynasties. Mais on a un sentiment national très fort, y compris aux Émirats, qui est une fédération de cet Émirat. Les gens d'Abu Dhabi se sentent abu-dhabiens, les gens de Dubaï se sentent de Dubaï. Donc, il y a vraiment plusieurs niveaux d'appartenance. Il y a un sentiment d'appartenance arabe, mais il y a aussi un sentiment d'appartenance très fort au Golfe. Il y a un sentiment d'appartenance à son pays, à sa tribu. Donc tout ça donne un ensemble assez nuancé, au-delà de toutes les grandes similitudes que Philippe Cadenne mettait en avant à l'instant. Donc,
alors on va continuer à parler de ces pays du Golfe dans la deuxième partie de l'émission, mais je voudrais quand même m'arrêter sur une singularité. Vous êtes chercheur, professeur, universitaire à la Sorbonne, et vous êtes à Abu Dhabi. Cela mérite un petit rappel.
Alors le petit rappel, c'est qu'en fait, dans le cadre en fait d'une coopération franco-émirienne, les Émirats Arabes Unis ont, implanté une université de droit émirien, mais qui délivre les diplômes de l'université de Paris 4 Sorbonne en ce qui concerne les matières qui sont enseignées à Paris 4, qui est une grande université littéraire, hein, avant tout. Et pour ce qui est d'autres matières qui ne sont pas dans celles qui existent à Paris, Paris 4, sont délivrées par l'Université de Paris Descartes en droit et en sciences économiques. Donc ce n'est pas un campus délocalisé d'une université parisienne, c'est une université émirienne où les enseignants sont des enseignants qui viennent de Paris, soit détachés pour un certain nombre d'années, soit pour quelques semaines.
La démarche est intéressante, elle montre l'ouverture.
Le projet est intéressant, alors il montre l'ouverture sur un point, par exemple, très spécifique, qui est le fait que c'est une université mixte, hein, filles et garçons, dans les mêmes salles de cours, dans les mêmes...
Brigitte Dumortier, Philippe Cadenne, donc auteur d'un atlas des pays du Golfe. On va se retrouver dans 3 minutes après une pause pour écouter les informations de ces dernières heures. À tout de suite.